escola, eu posso dar para a minha carta. Je vous invite à la prière. Une lampe à nos pieds, mais une lumière sur notre sentier. Notre prière ce matin, c'est que ta parole touche, puisse atteindre les zones d'ombre de notre existence, afin que la lumière se propage dans tous les domaines de notre vie. Parle, Seigneur, et que la lumière soit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose ce matin un texte tiré de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Lisons au nom du Seigneur. Il parlait de Jésus-Christ. L'auteur, l'apôtre Paul, arrivé à cet endroit, dit : Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, en tout cas, s'il y a un passage, comment dirais-je, qui exalte, voilà, s'il y a un passage qui exalte le mieux Jésus-Christ, Fils de Dieu dans sa préexistence, en tout cas dans toute sa puissance, dans sa gloire et son éternité, en tout cas c'est bien Colossiens chapitre 1, verset 15 à 23. C'est un texte en tout cas très lourd, très dense et très riche d'enseignements. Donc, il est impossible pour nous de tout décortiquer pendant une prédication. Nous pouvons cependant tirer quelques enseignements essentiels par rapport à ce texte. Alors, d'abord, disons que la clé de compréhension de ce passage se trouve dans le mot tête. La tête. Le Christ est exalté comme la tête de l'univers. La tête de l'univers. En hébreu biblique, les expressions commencement ou résurrection, qui est aussi un commencement, prémisse ou premier-né en tout cas, et chef aussi, dérivent de la même racine que le mot tête. Ensuite, cet hymne, en tout cas, énonce toutes ces affirmations à partir de l'événement historique de la croix. Comme l'ensemble du Nouveau Testament, il unit, en tout cas, rédemption et création, pour ne pas dire création et rédemption, confession du Christ Seigneur et aussi du Christ Sauveur. Enfin, cet hymne a pu faire partie de ce qu'on appelle une liturgie au sujet du baptême. En tout cas, le baptême jouera finalement un rôle prépondérant dans la suite de l'histoire de l'Église. Comment l'Église est-elle un corps? Et comment le Christ en est-il la tête? Comment l'Église est-elle un corps et comment le Christ en est-il la tête? Alors, on dit que l'Église est un corps à cause justement d'une double ressemblance avec le corps humain. Comme le corps humain, l'Église aussi a des membres, mais vraiment des membres distincts. Et ces membres, bien que distincts, se servent les uns les autres, de manière à ce que les membres aient également soin les uns des autres. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. Ensuite, de même que le corps est un parce qu'il est constitué d'une âme unique, de même, l'Église aussi est formée par un même esprit. Il n'y a qu'un seul corps, dit Paul aux Éphésiens, et un seul esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Au sujet des membres, alors il y a une autre considération à faire concernant le Christ, la tête de l'Église, puisque c'est le Christ lui-même qui est la tête de l'Église. L'apôtre Paul explique ainsi comment le Christ est la tête de l'Église. La tête assure les autres membres du corps à peu près, enfin, en gros, trois privilèges. Le premier privilège, c'est que la tête se distingue des autres membres du corps dans l'ordre de la dignité. Mais parce qu'elle est, parce que la tête est justement le principe, c'est elle qui préside la tête. Ensuite, elle se distingue des autres en plénitude de vie, mais parce qu'elle réunit en elle tous les sens, la tête. Et enfin, elle se distingue des autres membres du corps aussi en influence, mais parce qu'elle communique aux autres membres du corps sensations, mouvement, ainsi de suite. Autant de motifs pour dire que Christ est la tête de l'Église, à cause donc de sa dignité, à cause de la plénitude de sa grâce, et enfin à cause de son influence sur l'Église, sur le corps. C'est bien pour tout cela que Paul, dans ce passage, donc, encourage les Colossiens ainsi que les chrétiens de toutes les époques, de toutes les générations, à contempler Jésus, mais vraiment d'une manière qui conduit à adorer celui qui est le roi de l'univers, celui qui est le Seigneur de l'Église. La première chose que Paul dit au sujet de Jésus concernant sa relation avec Dieu, l'apôtre Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Autrement dit, c'est en Christ que le Dieu invisible se rend visible, car Le Fils est la représentation exacte du Père. Paul va encore l'affirmer au chapitre 2, verset 9. En lui, dit-il, habite pleinement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Alors, pourquoi la perfection de cette plénitude divine en Christ est-elle si importante pour nous? Pourquoi la perfection de cette plénitude divine en Christ est-elle si importante pour nous? Comme un fils qui reproduit, en quelque sorte, les caractères, les traits de son Père, Jésus-Christ est la représentation exacte, complète, tangible, visible de Dieu son Père. Il a dit lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, si Dieu est invisible, il n'y a que Christ qui nous le fait connaître. Sans Jésus-Christ, Dieu reste et donc inconnu des hommes. Et ceux qui pensent pouvoir se passer de Jésus pour connaître, pour adorer Dieu, en tout cas, sont dans la plus grande erreur finalement. Un Dieu qui ne se manifeste pas en Jésus-Christ n'est qu'une créature de l'imagination, en tout cas de l'esprit humain. Le seul vrai Dieu est celui qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ des Écritures. Né à Bethléem, crucifié à Golgotha, ressuscité des morts et élevé à la droite du Père dans la gloire. Alors, la première chose dont l'apôtre Paul parle, c'est justement de la relation du Christ avec son Père. L'apôtre continue en disant que sans Christ, l'univers, en tout cas entier, demeure incompréhensible. Car, dit-il, il est le premier-né de toute la création. Alors, le titre de premier-né de toute la création pourrait se comprendre de diverses façons. D'abord, ce titre ne signifie pas, comme on pourrait le supposer, que Christ fait partie de la création. Le premier-né de toute la création. Cela ne signifie pas que Christ fait partie de la création, qu'il est le premier être que Dieu a créé. Non, Paul dit que c'est bien le contraire en réalité. Il veut démontrer que Christ n'est pas une créature, Jésus-Christ n'a pas été créé, et de plus, il est lui-même le créateur. Il est avant et après, et il est aussi au-dessus de toute chose. C'est ce que signifie le titre de premier-né de toute la création. Christ est le premier-né, non pas dans le sens d'être né le premier, mais dans le sens d'être l'héritier de la création, celui qui possède l'autorité sur toute la création. Ce sens apparaît bien dans le psaume 89, au verset 23, où Dieu dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. » Psaume 89, verset 28. Ainsi, frères et sœurs, vous voyez que nous habitons un univers dont Christ en est le maître, un univers dont Christ en est le souverain, le commencement, la fin, la cause et le but. Et en plus, celui qui a créé toutes choses, c'est bien le Christ. Que ce soit les choses visibles, l'apôtre nous dit, que ce soit les choses invisibles, que ce soit les astres, les planètes, ce que l'homme connaît, et toutes ces choses aussi que l'homme ignore, qui peut-être ne découvrira jamais un jour. Il n'y a pas d'équilibre, en quelque sorte, dans cet univers si Christ n'est pas son créateur et celui qui le maintient. En tout cas, si Christ n'est pas le créateur, s'il n'est pas celui qui maintient cet univers, en tout cas, celui-ci n'a finalement pas de sens. Et c'est Christ aussi qui a créé toutes choses qui sont sur la terre, en particulier la vie. En tout cas, cas ce mystère impénétrable, aussi merveilleux que l'univers, la vie. Entre les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, il existe une parfaite unité, justement, signe du Créateur divin. Sans Christ, ce monde de la vie est donc aussi incompréhensible. Les hommes, de leur côté, essayent de bien se débarrasser de Dieu pour expliquer leurs origines. Mais ils n'ont pas encore réussi, justement, à établir une théorie valable et satisfaisante. S'ils tentent d'expliquer l'univers, le monde ou la vie, sans faire référence à Dieu et à Christ, en tout cas, cette explication reste dépouillée de raison et de sens selon la Bible. Et le sujet devient, en quelque sorte, une immense énigme insoluble. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu, après avoir créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, l'a en quelque sorte abandonné. Et que c'est pour cela, évidemment, que le mal est présent, que la misère est vraiment présente partout dans le monde. Oui, cette notion est populaire dans certains milieux, mais nous pouvons voir dans ce passage que cette façon de voir les choses est vraiment fausse. C'est Jésus-Christ qui est non seulement le Créateur, mais il est aussi celui par qui toutes choses subsistent. Plutôt que d'avoir abandonné l'univers qu'il a créé, il en reste toujours le souverain. Il est vrai que l'ennemi, il est vrai que Satan a un certain pouvoir, en quelque sorte usurpé, mais il ne le tient que par une mystérieuse permission de la part de Dieu. C'est Jésus-Christ qui garde le contrôle de l'histoire. C'est Jésus-Christ qui en est le maître de façon directe et personnelle. Il s'agit alors d'un mélange de mal et de grâce, ainsi que nous le voyons dans la mort même du Seigneur Jésus. En effet, la mort de Christ a été exactement ce que Satan avait voulu, avait toujours désiré. Mais plutôt, la mort de Christ aussi faisait surtout partie du plan parfait de Dieu. Le Dieu vivant qui contrôle, en tout cas, tous les événements de l'univers. Ainsi, le Seigneur a connu la mort, chef-d'œuvre de la puissance du mal, mais sa mort n'a pas été la victoire du mal, mais plutôt la victoire de l'amour. Sur la croix, Jésus dit qu'il a donné sa vie. Personne ne la lui a prise, il a donné sa vie. C'est ainsi que la grâce a transformé dans l'histoire des nations et des individus, des défaites en quelque sorte en victoire, des épreuves en véritable source de joie et d'allégresse. Alors, la signification de l'histoire de l'univers, c'est bien Jésus-Christ qui en est le centre. C'est lui qui est le but vers lequel convergent toutes les puissances de l'univers et tous les événements de l'histoire. Comme nous le voyons dans notre passage, qui dit que tout a été créé par lui et pour lui. En dehors de Jésus, l'avenir et le passé, la fin comme l'origine de l'homme et de l'univers, en dehors de Jésus, ces choses sont inexplicables. Certains croient que le monde se dirige vers ce qu'on appelle la divination de l'homme, c'est-à-dire qu'un jour, c'est l'homme qui prendra la place de Dieu, l'homme deviendra le divin. Mais la parole de Dieu nous déclare que le but de l'univers, c'est la gloire de Christ. L'univers tend vers la gloire de Christ. À un moment, le Christ va se manifester dans sa gloire. Et lorsque nous célébrons Noël après Noël, souvenons-nous que cette gloire ne fait que se rapprocher. La venue de Christ ne fait que se rapprocher. Car il est le point, le Christ est le point de rencontre entre ce qui est temporel et ce qui est éternel. Il est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. Il viendra nous rencontrer et nous le verrons par nos propres yeux. Cela veut dire que la phrase « la fin du monde », cette expression a bien une signification réelle. La fin du monde, oui, La fin du monde, je dirais, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui viendra avec toute chose. La fin du monde, c'est Jésus-Christ. C'est son retour et l'instauration, justement, d'un nouveau monde, mais par lui. C'est l'instauration d'une nouvelle humanité par lui. En dehors de cette espérance, frères et sœurs, il n'y a que désespoir. En dehors de cette espérance, il n'y a que néant et il n'y a que mort. La vie de l'homme bien-aimé ne prendra de sens que lorsqu'il aura réellement compris cela, que Dieu a un projet de bonheur pour chaque être humain, pour chaque individu. C'est en nous, à genoux, c'est en fléchissant nos genoux devant lui que nous trouverons ce monde intelligible et que notre vie sera faite d'espérance. Nous n'aurons de paix qu'en entrant dans ce plan, ce dessein de Dieu pour nos vies. Jésus-Christ est Seigneur de la création, maître de l'univers et souverain de nos âmes. Notre vie est entre ses mains. Voilà une très bonne nouvelle. Notre vie est entre ses mains. Et si nous croyons en lui et dépendons de lui, en tout cas, nous n'aurons rien, mais vraiment rien à craindre. D'après l'apôtre Paul, Jésus est non seulement le maître souverain de l'univers, mais aussi le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Nous avons dit que Jésus est le maître de tout ce qui a été créé, c'est-à-dire qu'en tant que créateur, il a la première place dans l'univers. Dans les versets 18 à 20, nous trouvons l'expression « premier-né d'entre les morts ».« Premier-né d'entre les morts ». Ce qui souligne que Jésus est le chef. Il est le chef de la nouvelle humanité, mais qui est l'Église. Le chef de la nouvelle humanité, qui est l'Église. Que Christ soit reconnu comme chef de l'Église, enfin, on va dire ça, c'est assez théorique. Comment cette autorité est-elle perçue de façon pratique par les hommes, en tout cas qui composent, qui constituent, qui forment cette Église? L'Église est la nouvelle création, la nouvelle société que Christ est venu inaugurer par sa résurrection d'entre les morts. Il est la tête du corps de l'Église, ce qui est vrai pour l'Église universelle, mais aussi pour chaque Église locale. Il faut que Christ soit en tout le premier. Il faut que Christ soit en tout le premier dans tout ce que les frères et sœurs font ensemble dans chaque église locale. Ce faisant, l'Église, frères et sœurs, n'est donc pas une société humaine, avec un gouvernement humain. Le principe de l'Église est divin. Le principe de l'Église est céleste. Loin d'être une société humaine simplement formée d'hommes et de femmes et d'enfants d'ailleurs avec leurs faiblesses et leurs limites, l'Église est le corps de Christ. Et le Seigneur exerce sur elle et en elle sa pleine autorité. Il faut regarder l'Église en fonction de Christ et non pas en fonction des membres qui la composent. Il faut regarder l'Église en fonction de la tête qu'est le Christ. Pendant des siècles, l'Église a eu des structures et des organes de gouvernement très variés. Mais ce qui distingue l'Église véritable, c'est vraiment le désir de servir et de maintenir l'autorité du Seigneur, quelle que soit la structure de l'Église en question. Christ doit régner de façon absolue et le rôle des membres du corps, évidemment, individuellement que collectivement, le rôle des membres du corps, c'est consister à discerner quelle est la volonté du chef de l'Église afin d'y obéir au final. Bien sûr que l'Église n'est soumise à Christ que dans la mesure où chacun est membre. Lui est soumis. L'Église n'est soumise à Christ que dans la mesure où chacun des membres lui est soumis. Si Christ doit exercer sur l'Église une autorité absolue, mais parce qu'il en est le chef, Il semble que Paul continue dans ce passage à expliquer les bases de cette autorité. En effet, l'apôtre Paul souligne en gros trois traits, trois caractéristiques qui distinguent Jésus-Christ en tant que souverain absolu. Il s'agit de sa divinité, il s'agit de sa résurrection et enfin de la rédemption qu'il a apportée. Au sujet de sa divinité, l'apôtre Paul dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité », chapitre 2, verset 9. « En devenant homme, Jésus n'a pas subi passivement les limitations de cette humanité. Certes, il s'est limité aux capacités physiques, il s'est limité aux capacités psychologiques de l'homme, mais son autorité sur les éléments de la nature nous rappelle qu'à l'intérieur même de ses limites humaines, Jésus est resté maître, en tout cas maître de sa liberté et aussi maître de ses pouvoirs divins. Jésus-Christ est donc plus, je dirais, qu'un simple fondateur de religion ou qu'un maître spirituel. Il est vraiment Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous devons l'adorer et le reconnaître comme le chef unique de l'Église. Et c'est pourquoi nous prenons au mot ses enseignements sans oser y changer, sans oser y retrancher quoi que ce soit. À propos de la résurrection, deuxième trait, deuxième caractéristique de son autorité, notre passage nous enseigne que Christ est le premier d'entre les morts. Cela veut dire que Christ est le chef de tous ceux qui ressusciteront un jour. Cela veut dire ça, et il en est le plus éminent. En outre, il est le premier dans le temps. Il est le premier dans le temps qui soit ressuscité. Mais ressuscité dans le sens plein du terme. En réalité, c'est pour cette raison que nous pouvons comprendre que les exemples de la résurrection que nous avons dans la Bible, tels que Lazare, par exemple, qui est ressuscité, revenu à la vie, mais on peut parler simplement de réanimation pour Lazare, puisque quelques temps après, il a bien connu la mort. Mais quand Christ est revenu à la vie, mais c'est pour ne plus jamais mourir. Donc, c'est lui, justement, qui est le plus éminent. Mais, certes, ceux qui, selon la Bible, nous parlent, qui ont été réanimés, qui sont revenus à la vie, la résurrection que nous avons dans la Bible, avec l'exemple de Lazare, certes, ils ont vu le jour sur la terre, enfin, que leurs jours se sont en quelque sorte prolongés, mais ils n'ont jamais été délivrés de la mort. Parce qu'au final, ils ont fini par connaître la mort, alors que Christ, mort, ressuscité, la Bible dit que la mort ne pouvait plus avoir d'influence, de pouvoir sur lui. Ce qui est pour nous un fait très important. Plutôt que d'entrer dans la vie éternelle, après sa résurrection, Lazare a dû vivre, alors que Christ, une fois ressuscité, il est resté quelque temps, et après il est rentré dans la vie éternelle, il est rentré dans la gloire du ciel. Oui, Jésus ne peut plus, en quelque sorte, mourir. Au matin de Pâques, c'est dans un corps nouveau et vivant d'une vie nouvelle que Jésus est apparu à ses disciples. Et cette vie sera le partage de tous les ressuscités à venir, c'est-à-dire tous ceux qui auront cru en Jésus pendant leur vie sur cette terre. Concernant la rédemption, d'un dernier trait de l'autorité de Christ, notre passage dit que Dieu a voulu, par Christ, réconcilier tout avec lui. Donc, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est là un aspect qui devrait provoquer aussi notre adoration et notre obéissance à Jésus, parce qu'il nous a ramenés à Dieu par le sacrifice de la croix. L'apôtre Paul dit que nous étions loin, mais Christ nous a ramenés. Auparavant, notre relation avec Christ était celle de la création vis-à-vis de sa créature, car c'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Mais maintenant, par la rédemption, nous lui appartenons, j'allais dire pour une seconde fois, c'est encore par lui et pour lui que Dieu a voulu tout réconcilier, que c'est merveilleux, et bien au-delà même de notre compréhension. Et notre attitude ne peut qu'être que la soumission à sa volonté et à son autorité, car il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus que, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais plutôt pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est l'apôtre Paul parle de l'aliénation passée en fonction du péché, eu égard au péché. Il parle aussi d'une réconciliation présente. Dieu vous a maintenant réconcilié, dit-il. Voilà un sujet de joie. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. En effet, Dieu a maintenant ramené la paix avec soi et la paix avec les autres par la réconciliation avec lui-même en Christ. Pour que Dieu puisse nous réconcilier avec lui-même, il lui faut venir au bout de la raison, au bout de la raison fondamentale de la révolte de l'homme contre Dieu, révolte justement qui a sa cause profonde dans le péché. C'est une cause ignorée, malheureusement repoussée et inavouée aujourd'hui par une multitude de gens. Pourtant, c'est vraiment le péché qui coupe toute communication avec Dieu et qui enlève tout le vrai sens à la vie. La vie, frères et sœurs, ne peut se concevoir sans Dieu. Et si Dieu n'en est pas le centre, en tout cas l'homme n'a plus la ligne directrice, l'homme n'a plus d'orientation. Il est littéralement perdu. Or, pour retrouver l'harmonie personnelle, il faut retrouver d'abord l'harmonie avec Dieu, ce qui ne peut se faire que si le péché, à cause de notre séparation, disparaît. Cependant, il est impossible pour l'homme de faire disparaître son propre péché. En tout cas, si Dieu n'intervient pas, l'homme n'est pas capable de faire disparaître son propre péché. L'homme n'est pas capable de se faire pardonner lui-même. L'homme n'est pas capable, d'œuvrer pour sa propre réconciliation avec Dieu. Dieu vous a maintenant réconcilié, dit l'apôtre Paul. Le pécheur lui-même ne peut pas enlever son péché. Le temps qui s'écoule jour après jour, je disais tout à l'heure que chaque année nous célébrons la fête de Noël, ce qui veut dire que le retour de Christ aussi ne cesse de s'approcher. Donc le temps qui s'écoule, bien aimé, ne pourra jamais effacer nos péchés lorsqu'ils ne sont pas confessés. Et nos bonnes actions ne peuvent pas aussi les racheter nos péchés. Mais c'est Dieu qui nous a réconciliés en payant lui-même, en tout cas le prix immense, incalculable de nos fautes. Réconcilié avec Dieu, l'homme retrouve le sens de la vie. Il sait qui il est et où il va, réconcilié avec Dieu. Le monde qui lui était étranger s'illumine en quelque sorte et il peut penser et comprendre les choses à un niveau inconnu de lui auparavant. Il voit sous un jour totalement nouveau ceux qui l'entourent et son hostilité à leur égard commence à disparaître, à s'évanouir. En retrouvant Dieu, frères et sœurs, l'homme a retrouvé les autres aussi, et l'homme s'est aussi lui-même retrouvé. Il a découvert une nouvelle harmonie, la paix dont parlent les Écritures. Si Christ nous a réconciliés, c'est pour nous faire paraître devant lui, dit le texte, saint, irrépréhensible et sans reproche. Dieu nous en donne la promesse. Ayant commencé justement cette œuvre en nous, il la poursuivra jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection finale. Il ne la laissera pas inachevée. L'œuvre de la croix est parfaite et suffisante pour nous sauver. Cependant, il semblerait que ces conséquences nous sont encore totalement inconnues, et c'est en espérance, dit l'apôtre Paul, que nous sommes sauvés. Le chrétien, frères et sœurs, devrait toujours se rappeler que cette espérance est sûre et solide, et que ce n'est pas en vain que nous croyons en Christ. Que ce n'est pas en vain, ce n'est pas une utopie que nous croyons en Christ. Un jour, nous paraîtrons devant lui dans la perfection. Entre la réconciliation actuelle et la perfection future, il y a justement l'œuvre incessante de Dieu en nous, chaque jour, et qui nous prépare justement à la gloire à venir. C'est son œuvre à lui, mais qui ne s'accomplit en nous et par nous, à travers notre persévérance dans la foi et dans l'espérance. C'est Dieu lui-même qui s'engage à nous préparer pour sa gloire, mais il le fait en agissant aussi sur notre volonté et en suscitant aussi chaque jour notre action. Cela ne sera pas sans but, évidemment, nous le connaissons, cela ne sera pas sans échec, cela ne sera pas sans larmes, et pourtant, ce ne sera pas notre force qui agira, mais celle de Dieu qui se manifestera à travers nos faiblesses. L'apôtre Paul peut dire, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela veut dire que le souverain maître de l'univers est aussi souverain de nos vies. Il est le divin potier qui peut faire de l'argile que nous sommes des vases d'honneur, des vases qui ornera un jour son royaume éternel. C'est une pensée merveilleuse. Oui, frères et sœurs, c'est merveilleux. Et quel est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous avons une espérance sûre et solide et nous pouvons adorer notre Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière et ensuite nous partageons le repas du silence.